contourné. De multiples autres lois en témoignent. Beaucoup de nos élus, et non des moindres, font preuve consciemment ou non, de comportements transgressant cette loi de 1905. La libre-pensée, dans ce dernier congrès national, propose une confédération laïque. Nous allons voir donc tout cela et pourquoi cette confédération laïque et de quoi il s'agit. Claudette, que dire du comportement de certains élus ?
Oui, merci Michel. Alors, bonjour. Tout d'abord, effectivement, le 9 décembre sera en effet, comme tu l'as dit, l'anniversaire du vote de la loi de séparation des cultes et de l'État. Et pour ceux de nos auditeurs qui n'ont pas suivi nos émissions précédentes sur la laïcité, voici tout d'abord un rappel de ce qu'est la loi de 1905 et ce qu'elle a établi. Ça nous permettra de voir à quoi nous échappons à l'heure actuelle, ou plutôt ce qui nous manque aujourd'hui pour réaliser notre pleine liberté de conscience. La loi de 1905 de séparation des cultes et de l'État est la loi qui a constitué la laïcité en France. Elle répond à une exigence, assurer la liberté de conscience, une aspiration largement portée par les Lumières, puis par la Révolution française de 89, et celles qui suivront, celle de la liberté de conscience et des libertés qui la font exister, liberté d'association, de manifestation. Il s'agit par l'établissement de la première... Il s'agit par là de l'établissement de la première des libertés, d'assurer l'égalité des citoyens devant la loi et leur permettre d'exercer librement leur citoyenneté. Dans l'article 1 de la loi, la République déclare en premier lieu qu'elle assure la liberté de conscience. Et à la suite, elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions établies par cette loi. Mais pour établir cette loi de conscience, de liberté de conscience, la République a dû s'affranchir du poids des cultes, rompre le lien qui avait été établi entre les cultes et l'État par le concordat napoléonien de 1801, qui rétablissait la puissance de l'Église catholique, affaiblie par la Révolution, tout en réintroduisant l'emprise de l'État sur les religions. Cette émancipation, elle la réalise par l'article 2 de la loi de 1905, qui établit la non-reconnaissance des cultes et la fin de leur financement, à l'exception du budget des aumôneries établi dans les lieux d'où les citoyens ne peuvent sortir librement pour exercer leur culte. Ce non-financement et le non-subventionnement ne sont que la conséquence de la non-reconnaissance. Financer les cultes reviendrait à leur reconnaître une fonction publique, établir à nouveau une relation, un contrat avec l'État. De plus, il supposerait mettre à contribution les citoyens contre leurs propres convictions. C'est donc de façon très cohérente que les financements disparaissent des budgets de l'État, des administrations, des écoles et des collectivités locales. L'État doit désormais adopter une position de neutralité à leur égard. Il ne peut assurer leur promotion de quelque manière que ce soit, ni les hiérarchiser, ni les discriminer, ni les instrumentaliser. Plus aucune expression sur leurs valeurs, plus d'immixion dans leur organisation et plus de financement. Si la conséquence de cette non-reconnaissance des cultes, c'est la perte pour ces derniers de leurs privilèges et du caractère officiel que leur donnait le concordat, ils acquièrent en retour leur indépendance et le droit de s'organiser librement dans le cadre des dispositions établies par la loi. Pour les citoyens, c'est devenu l'assurance de pouvoir sans crainte et sans préjudice pour leurs droits s'adonner au culte de leur choix et à leur absence, ou à leur absence de culte et s'exprimer librement. Ce point est essentiel à la démocratie. L'État étant neutre, les lois ne passent alors plus au crible des dogmes et peuvent alors être réellement l'expression de la volonté générale. Examinons où nous en sommes de l'application de cette loi aujourd'hui. Sous la Ve République, cette loi a subi des attaques majeures par un nombre important de textes votés contre la loi, qu'il serait bien évidemment trop long ici à énumérer. Je ne vais que vous en citer deux. La première, c'est le vote dès décembre 1959 d'une loi, la loi Debré, qui établit le financement des écoles confessionnelles à 46% catholique, rétablissant de fait un financement des cultes. Elle prévoit que l'État assure le financement du fonctionnement des établissements et des enseignants des écoles, collèges et lycées privés, tout en leur assurant le respect de leur caractère propre, c'est-à-dire leur mode d'organisation et leur objectif religieux. Ainsi, chaque année, ce sont plus de 9 milliards qui sont versés en violation de la loi de 1905. Une autre attaque dont il faut parler, et qui est plus récente, celle-là, c'est celle portée par la loi dite séparatisme. Cette loi modifie la loi de 1901, la loi qui permet de s'organiser librement. Elle porte atteinte à la liberté de s'associer librement, à l'indépendance des associations, créant une menace de dissolution permanente. D'autre part, à la séparation des cultes et de l'État, elle substitue le contrôle accru des églises et des religions par l'État. Par ce texte, l'État définit si une religion est conforme à ce qu'il a décidé qu'une religion devait être. Elle rétablit, sans le dire, un régime de culte reconnu et par conséquent met des citoyens à part. On a vu jusqu'où cette loi permet au ministre Darmanin de lancer des injonctions au culte, notamment le culte musulman, à appeler à manifester selon le bon vouloir de l'État, ou encore à décider en lieu et place de ce culte ce qui était un vêtement religieux. Je parle ici de l'abaya. Concernant les violations de la loi par les élus, et notamment, j'en parlerai un peu plus loin, dans le département. On ne peut pas passer sous silence la politique cléricale du gouvernement qui met en œuvre sa politique de réparation des liens entre l'Église et l'État. Il a franchi une étape supplémentaire à l'occasion de la venue du pape et s'est illustré en repoussant les discussions de la loi sur la fin de vie contre laquelle le Vatican est vent debout et, pour ce qui est du président de la République, a participé escalité à la messe du pape au stade Vélodrome, présentant cette participation comme l'obligation issue de la loi elle-même. Dans notre département, cette année, les violations contre la laïcité ont été particulièrement riches. On ne peut pas oublier l'attitude prosélyte des 7 maires du pays de Luvonne qui se sont rendus au Vatican dans le but de nouer des partenariats pour ouvrir des patronages et de l'aide aux devoirs pour les enfants et rétablir le culte catholique au centre de leur village. On ne peut pas passer sous silence l'attitude du maire de Marseille, militant pour la venue du pape et la tenue des rencontres méditerranéennes à Marseille. Après avoir signé comme maire un document avec les évêques de la Méditerranée reconnaissant la place des cultes dans l'élaboration des politiques publiques et mettant sur le même niveau religion et mairie. On ne peut non plus oublier sa présence aux côtés du pape à chaque fois que c'était possible au moment où il était présent à Marseille. Ce faisant, le maire de Marseille s'est conduit non comme le représentant élu des Marseillais, mais comme un missionnaire au service de l'Église. Rien d'étonnant à ce que nous découvrions dès lors que sur le plan du financement des rencontres méditerranéennes, la mairie de Marseille a pris un arrêté affiché le 1er octobre exonérant l'association Mariam, organisatrice des rencontres méditerranéennes, donc des rencontres organisées par l'Église catholique, des frais d'utilisation du domaine public qu'elle a utilisé très abondamment. Cette association, pour le rappeler, siège à l'archevêché et est présente dans ses statuts, d'une part, le fait que le seul membre de droit est le cardinal Aveline, mais d'autre part, qu'en cas de dissolution de l'association, tous les avoirs de l'association iraient directement au diocèse de Marseille. Pour ce qui concerne le prix de la location du Pharo pour les rencontres méditerranéennes, nous ne sommes toujours pas au courant de la somme qui a été demandée. Pour ce qui concerne les subventions directes ou indirectes, d'autres collectivités locales ne sont pas en reste. Ainsi, le conseil départemental a offert des prestations en nature pour 150, 7 000 euros afin d'aider à la tenue des rencontres méditerranéennes. Moyen détourné pour financer donc le culte. Le conseil régional, quant à lui, veut verser directement 200 000 euros à l'association Mariam dont j'ai parlé précédemment. De manière plus générale, sur le terrain de la reconnaissance des cultes, on retrouve régulièrement de nombreux élus de notre département au premier rang des cérémonies religieuses et assurant la promotion du culte catholique. Je vais terminer là-dessus. La plus récente, c'est l'installation, il y a quelques jours, au conseil départemental, d'une crèche par Martine Vassal, crèche qu'elle présente comme une tradition provençale à laquelle elle est très attachée, et qui ajoute « Nous devons être fiers de nos racines judéo-chrétiennes », donc qui marque très nettement que cette crèche a un caractère religieux. Pour conclure, je dirais « Comment est-il possible de célébrer mieux la loi de 1905 en la défendant au quotidien et travaillant à l'abrogation des lois qui l'ont dénaturée ?»
Merci Claudette. Voilà, donc, cette description, je propose que nous passions une plage musicale. Je pense qu'il s'agit de cantiques par les garçons bouchers. Michel, tu peux nous le confirmer ?
Oui. Bon, on entend mal notre ami Michel. Là. C'est un petit problème, quelque part. Bon, il va toujours est-il qu'il vient d'annoncer, comme on a l'habitude de faire, l'introduction de notre... L'introduction en définitive, excusez, il y a des problèmes de régie actuellement. L'introduction de la chanson qui va venir. Cette chanson qui va venir maintenant, c'est la chanson Cantique. Alors Cantique, c'est une chanson qui est des Garçons Bouchers. Ce sont les Garçons Bouchers. Les Garçons Bouchers, c'est un groupe de rock français qui a été fondé en 1986. Et c'était l'un des groupes majeurs du rock alternatif français dans les années 80. Le groupe s'est dissous en avril 1997 et François Adige Lazaro continue avec Pigalle. Voilà.
Seigneur, tu conduis ton troupeau, tu pardonnes aux pécheurs avec un grand couteau. Tu les saignes, ô Seigneur, enfin gourmet mystique. C'est ton droit de Seigneur avec les catholiques. Mais les athées, Seigneur, et tous les hérétiques, aussi ta ferveur, hélas. La chair de tes pasteurs est-elle trop familique? Ou celle de tes bonnes sœurs, trop dure quand tu mastiques? Si tes brebis, ô Seigneur, te paraissent rachitiques, et leur chair sans saveur, change de diététique. Légumes, ô Seigneur, à ton âge canonique, sont meilleurs pour le cœur et les troubles hépatiques. Tu peux, à la rigueur, croquer un catholique, garni de quelques fleurs, mais entends ce cantique. Foi de libre penseur, évite les sceptiques. Faut de quoi, Seigneur, tu mourras de colique. Thank you.
Oui.
Bon, je reprends. Donc, Claudette nous a décrit... Claudette nous a décrit certaines entorses à la loi de 1905, notamment en matière de subventions, et surtout localement, on voit localement à propos de la venue du pape. Hein. Donc, Michel, as-tu une idée de comment mettre fin à ces entorses ?
Oui, alors, comment mettre fin ? Bon, aurait fallu peut-être, mais ça a d'ailleurs été fait par ma camarade Claudette, hein, expliquer les différentes évolutions des entorses. Alors, bien entendu, lorsque l'on fait notre petite intervention, comment on peut mettre fin à ces entorses, je dirais. Alors, il faut savoir que, bien entendu, il y a eu beaucoup de dérogations. Hein. Je reprends un peu le fil de mon intervention. Mais dans ces interventions, ces dérogations, beaucoup de dérogations ont été prévues par des lois. Vous en avez vu, il y a eu déjà une partie qui a été résumée par Claudette. Hein, bien sûr, le Conseil d'État est intervenu dans plusieurs cas, souvent à l'avantage de la loi sur la séparation. Hein. Hein, souvent, ils ont proscrit presque toujours les aides publiques directes au culte. Hein. Hein, ça a été le cas, par exemple, sur les jugements du tribunal administratif de Limoges ou l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux qui avait annulé les délibérations du Conseil général. Mais au-delà des cas simples, hein, comme celui que je viens d'évoquer dessus, les apports de la jurisprudence dans le décryptage de la loi de 1905 reposent sur une même analyse dont le Conseil d'État a fait application dans deux domaines. Dans le domaine cultuel, quand le domaine cultuel n'est pas cultuel, hein, c'est un peu ce qu'a expliqué tout à l'heure Claudette, hein. D'abord, la jurisprudence du Conseil d'État, en se fondant sur une lecture étroite du mot « culte » dans la loi de 1905, a admis que les collectivités publiques apportent une aide financière à une association qui a des activités cultuelles. Alors, il s'agit, suivant les termes employés par le Conseil d'État, hein, dans ses arrêts, des subventions octroyées, comme elle dit, en vue de la réalisation d'un projet, d'une manifestation ou d'une activité qui ne présente pas un caractère cultuel et n'est pas destinée au culte, à la condition, en premier lieu, que ce projet, cette manifestation ou cette activité présente un intérêt public local et, en second lieu, qu'il soit garanti, notamment par voie contractuelle, que les subventions est exclusivement affectées au financement de ce projet dans cette manifestation ou cette activité et n'est pas utilisée pour financer les activités culturelles de l'association. On le voit que pourquoi on peut jouer sur, je dirais, cette ambiguïté, ce problème. Alors il y a aussi sur l'aide aux édifices. Hein. C'est comme ça qu'il y a eu deux arrêts en définitive en 2011 sur la commune de Trélazé et sur celui de la Fédération de la Libre Pensée du Rhône concernant l'un un orgue dans une église et l'autre un ascenseur destiné à faciliter l'accès des personnes à mobilité réduite. Hein, qui dans chaque fois, ils ont fait jouer le cas de qu'il existait un intérêt public local. Voilà, ce sont ces activités que, ce sont ces exemples de dérogation qui serait bien de supprimer déjà en rendant la loi peut-être un peu plus, revenir un peu aux origines de la loi, je dirais. Alors, il faut savoir qu'une loi, elle est faite pour être appliquée, mais elle a surtout été faite pour être interprétée. Et c'est ce que beaucoup de gens font de la loi de 1905. Alors, comment on peut résoudre ce problème-là ? Aujourd'hui, bien entendu, il faut faire un projet de loi ou il faut modifier la loi. Bien entendu, pour modifier une loi, il faut déjà que, quelque part, on puisse la présenter. Alors, il se trouve qu'aujourd'hui, hein, il y aura, normalement, il va y avoir un groupe à l'Assemblée nationale qui envisage de présenter, en définitive, une proposition de loi pour la pleine et entière restauration de la laïcité institutionnelle qui passe par l'abrogation de toutes les lois, décrets, circulaires et mesures anti-laïques. Alors, cette proposition de loi, alors, ce qui nous fait bien plaisir, nous, à la Libre Pensée, parce que cette proposition de loi est tenue par un député qui s'appelle Bastien Lachaud. Or, il se trouve que Bastien Lachaud est également le député qui avait porté la proposition de loi pour la réhabilitation des fusillés, pour l'exemple. Alors, je vais vous faire deux ou trois mots sur, bien entendu, sur ce projet, je dirais. Hein. Déjà, je cite dans les exposés des motifs. Hein. Bien sûr, je ne vais pas vous lire tous les exposés des motifs, mais je vais vous en lire une partie quand même. Alors, fidèle à la loi de 1905, convaincu qu'elle est toujours d'actualité, nous souhaitons rétablir ces principes tels qu'ils étaient avant d'être abîmés par de nombreuses attaques. La présente proposition de loi cadre se justifie donc pour restaurer la laïcité dans notre pays. Elle en propose une approche d'ensemble à aux trois niveaux de la puissance publique. Celui de l'État et des collectivités territoriales qui l'incarnent. Celui de l'école conçue comme institution essentielle de la République. Et celui des services publics qui font vivre le bien commun à tous. L'esprit général d'une telle loi cadre est celui d'une République à la fois laïque et sociale. À ce sujet, j'aimerais répéter ce qu'avait dit Jean Jaurès en 1904. La République doit être laïque et sociale, mais restera laïque parce qu'elle aura su être sociale. Donc on voit très bien que ce projet va dans ce sens. Alors deux caractères sont essentiels à souligner ici. D'une part, les lois communes sont conçues en toute indépendance par rapport aux convictions particulières, qu'elles soient religieuses ou athées, et reposent uniquement sur les droits fondamentaux de tout être humain. Elles excluent donc tout privilège de la religion ou de l'athéisme. Ainsi fondées, elles sont universelles et permettent à des personnes ici d'origine ou de traditions diverses de vivre ensemble sur des bases justes, source d'émancipation. D'autre part, la souci de l'intérêt général définit une sphère commune destinée à rendre accessible à tous les biens fondamentaux que sont la santé, l'instruction et la culture, et plus généralement les conditions matérielles d'une vie digne. De fait, la séparation laïque de l'État par républicain et de toute l'Église n'a supprimé le budget public des cultes que pour mieux assurer la promotion de l'intérêt général commun à tous. Alors, plus loin, bien sûr, je peux vous dire d'autres. Alors, ils attirent l'attention aussi, bien entendu, sur les trois principes constitutifs de la laïcité impliquent des politiques publiques propres à les promouvoir. Ainsi, la liberté de conscience appelle l'abstention et la neutralité stricte des représentants de l'État dans l'exercice de leurs fonctions concernant les différentes options spirituelles. Elle exige que la loi commune ne privilégie ni ne stigmatise aucun choix de vie et d'accomplissement personnel. Elle requiert une école publique et laïque, source d'autonomie, de jugement et de citoyenneté éclairée. Dans l'immédiat, des dispositions contenues dans la présente proposition de loi s'articulent autour des axes principaux présentés ci-dessus sont les suivants. Alors là, bien entendu, je vais vous présenter en bref, c'est toujours dans la proposition de loi, quelques exemples de modifications qui nous permettraient tout au moins de revenir à l'origine de la loi de 1905. Par exemple, l'article 1er qui est prévu. La loi de 1905 concernant la séparation de l'Église et de l'État s'applique sur l'ensemble du territoire de la République française. Alors, on a bien compris que c'est sur l'ensemble des territoires de la République française. Ce qui implique bien, donc dans l'article 2 d'ailleurs, ce qui est marqué, donc supprime les dispositions concordataires relatives au droit local des cultes en vigueur en Alsace-Moselle. Les droits sociaux hérités du régime bismarckien ne sont absolument pas remis en cause. Ça, c'est clair et net dans les articles de la loi qui sont énoncés plus loin, je dirais. Et il supprime en définitive une partie d'un article de la loi de 1921, si je ne me trompe pas, qui fait qu'il n'y aurait de supprimer dans cette loi que le terme de reconnaître les cultes. Voilà. Mais les droits sociaux, tels qu'ils sont en Alsace, resteraient tels quels. Ça, c'est clair. Donc, il y a également, concernant l'étranger, une ordonnance. Il demande l'abrogation de l'ordonnance de Charles X du 27 août 1828. Vous vous rendez compte, Charles X en 1828, qui fait bénéficier le culte catholique d'un financement public en Guyane. Alors, il y a l'article 6, par exemple, qui prévoit que la reconnaissance d'utilité publique d'une association ou d'une fondation doit s'effectuer en conformité avec le principe de séparation des Églises et de l'État. Ainsi est mis un terme au financement indirect des religions par l'exonération fiscale des dons, puisque vous savez, aujourd'hui, l'Église catholique, pour certains cas, dans beaucoup de cas, peut avoir maintenant, si je ne me trompe pas, jusqu'à plus de 70% en don. Donc, on peut continuer comme ça en continuant sur les articles. L'article 7, par exemple, qui modifie le Code général des impôts, pour justement faire expliquer ce que je viens de dire, afin de supprimer un certain nombre de dispositifs qui contreviennent de manière directe ou déguisée à la loi du 9 décembre, comme des réductions d'impôts pour les dons et versements aux associations cultuelles. L'article 9, par exemple, lui, abroge les articles de la loi dite séparatisme, qui sont les atteintes au principe de laïcité. Alors, il se trouve qu'on a déjà parlé de cette loi séparatisme et que ça fait déjà un sujet au niveau des interventions que nous avons faites sur cette antenne. Et si vous en voulez en savoir un peu plus sur la loi séparatisme, vous pouvez toujours vous adresser sur le site de la Fédération. Ensuite, il y a le titre 2 qui présente des mesures visant à garantir la laïcité de l'enseignement public et clarifier ses financements. Là, on entame le thème de l'école, je dirais. Alors, l'article 10 qui réaffirme le principe de la laïcité de l'enseignement public ainsi que de son indépendance vis-à-vis de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique. Et là, il y a bien le terme également « économique hein ». Et on comprend très bien pourquoi, aujourd'hui, quand on a les écoles, on fait introduire l'entreprise dans les lycées, dans les lycées professionnels, dans beaucoup de lycées, partout. On essaie d'introduire cette chose-là. Alors, on interdit également donc, la multiplication des partenariats avec des groupes privés, est également contraire à l'article du Code de l'éducation. Voilà. L'article 11, alors lui, il inscrit la formation à la laïcité parmi les objectifs de l'éducation nationale. Alors on a vu que depuis quelque temps, on a mis en place des référents laïcité dans des lycées, dans des collèges. C'est en train d'essayer de se mettre en place. Mais le but, c'est quand même qu'on ait une formation de base de la laïcité dans toute l'éducation nationale, pas que des référents. L'article 12, donc, lui, abroge le statut scolaire particulier de l'Alsace-Moselle. Les cours de religion sont ainsi supprimés et les CAPES de religion, créés par voie réglementaire, disparaîtront de facto. On le voit qu'on touche à pas mal de choses déjà. L'article 13, l'enseignement public est financé sur fonds publics quand les établissements d'enseignement privé sont financés sur fonds privés. En gros, on revient au vieux terme, fonds privés à l'école privée, fonds publics à l'école publique. L'article 14, lui, modifie le régime d'une simple déclaration pour l'ouverture d'une école privée. C'est aujourd'hui, on s'aperçoit qu'à la limite, il est plus facile d'ouvrir une école privée, qui la plupart du temps sera financée, que d'ouvrir une entreprise ou un simple magasin. Voilà, d'ailleurs, c'est un peu ce qu'on dit, c'est la réalité, quoi. L'article 15, lui, libère les établissements d'enseignement privé de la tutelle de l'État et des collectivités territoriales par la suppression de leur financement public. Hein, on revient sur le même terme que l'on a vu tout à l'heure. Donc, de facto, l'application, la loi de Bray, donc sera donc abrogée. Nous avons après un article 16 qui renvoie à une future loi de programmation de transfert des fonds publics. Hein, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire on supprime les fonds à l'école privée, mais encore faut-il s'occuper de tous les enseignants qui, eux, sont rétribués sur des fonds publics. Donc ça organise un peu ce passage-là. L'article 18, lui... Et justement, il abroge également la loi de 2009 hein, qui tendait à garantir la parité du financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association. Vous le savez, une localité qui n'a pas d'école publique, qui envoie ses élèves dans une école privée, et elle obtient donc une subvention à part égale avec ce que serait une école publique. Ensuite... On a également différents trucs. Hein. C'est qu'après, on se retrouve... Il y a toujours dans l'école, je dirais, plus ou moins, qui réaffirme le principe, l'article 20, qui réaffirme le principe du monopole de l'État dans les collations des grades et diplômes. Hein, ce qui est une chose tout à fait normale, mais c'était largement dégradé depuis très longtemps, d'ailleurs. Le titre 3, lui, qui institue les dispositions pour renforcer la laïcité dans les services publics. Alors, premier article, hein, quelque chose qui peut nous toucher en ce moment où on approche de la date, c'est que l'article 21 instaure le 9 décembre comme jour férié laïque, journée de la laïcité. L'article 20, alors lui interdit, l'article 22, je dirais, plus ça plus tôt, excusez-moi, interdit la manifestation d'une appartenance religieuse par toute personne investie d'une autorité publique dans l'exercice de ses fonctions. Prépare la remise en cause du titre de chanoine de Latran, dont la République n'a que faire. En gros, vous le savez, on va se remettre en place, être bien certain, comme tout à l'heure Claudette vous en a parlé, des atteintes à la laïcité avec des représentants des personnes de la personnalité de l'autorité publique, hein, qui, dans l'exercice de leurs fonctions, participent à des événements religieux. L'article 23, lui, prévoit que les hommages à la nation rendus à une personne défunte ne peuvent se faire que dans un lieu de culte, ce qui est tout à fait normal. Un hommage national ne peut se rendre que dans un lieu public et non pas dans une mosquée ou une église ou une cathédrale, peu importe. Hein. Ça peut être qu'un lieu public permettant l'accès à tous. Ensuite, ils veulent, on serait prévoit, créer un service public. Donc, automatiquement, ça inclut le fait de créer un service public laïque et gratuit des obsèques. Hein. Ils prévoient également l'obligation par les maires de mettre à disposition une salle pour l'organisation de cérémonies. Comme vous le savez, c'est un combat que mène la libre-pensée depuis très longtemps pour obtenir des salles de cérémonies civiles à des citoyens qui, toute leur vie, ont duré d'en payer leurs impôts et n'ont pas droit à un lieu pour leur rendre hommage lors de leur décès. L'article 25, lui, supprime les services d'aumônerie dans les établissements publics ouverts. Ce que l'on entend par là, c'est que beaucoup d'aumôneries sont vandalisées, parce qu'avant, on pouvait, parce que c'était des internats. Mais maintenant, on sait que les internats, ce que c'est devenu, c'est plus tellement des internats, c'est des lieux ouverts. Donc, ça permet aux étudiants qui sont dedans de participer à un culte en dehors des heures de cours. Ensuite, l'article 26 clarifie le régime juridique applicable à la retransmission des missions religieuses sur le service public de l'audiovisuel. Et là, vous le savez, tous les dimanches matin, comme moi, je suppose, vous écoutez les émissions religieuses passionnément. Moi, personnellement, je m'attire plus le deuxième dimanche du mois sur la radio pour écouter l'émission de la Libre Pensée. Et voilà. Mais il est anormal que les religieux disposent des heures d'antenne sur le service public. Et l'article 27, enfin, il y a un article 27 qui prévoit l'obligation de continuité du service public, conformément au principe constitutionnel, afin de combiner le principe de laïcité qui garantit les droits fondamentaux des femmes, et notamment celui du libre de choix, de disposer de leur corps, le principe de continuité du service public et la clause de conscience du patricien hospitalier. Là, on le voit, cet article 27, et bien sûr, il nous intéresse également. Après, bon, il faudra. Enfin, là, en définitive, il y a un titre 4 qui est composé d'un article unique, l'article 28, qui emporte les éventuelles conséquences financières de la présente loi pour l'État et les collectivités publiques. Voilà le projet de loi qui est envisagé et qui, d'ailleurs, va être présenté, puisque ça intéresse quand même pas mal de monde. Et pour cela, il y a d'ailleurs, au niveau de l'Assemblée nationale, il y a un colloque qui est organisé sur la laïcité entre fantasme et réalité. Et ce colloque, il sera fait avec Benoît Schneckenberger, Carole Albultier et Bastien Lachaud, qui est porteur du projet de loi. Voilà, alors pour tout ce que je vous ai dit concernant ce que je viens de dire, justement, vous trouverez tout ça sur le site de la Fédération départementale de libre-pensée ou le site national. Voilà pour ce qui en est de mon intervention. Je vous remercie.
Merci Michel de nous avoir explicité tous les articles de cette proposition de loi portée par Monsieur Lachaud, maintenant, peux-tu illustrer ton propos avec une petite plage musicale ?
Oui, Alors, cette plage musicale, elle est en rapport avec, je dirais, c'est le sable de Coupillon, parce que vous allez voir, on a quand même des sujets aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'on a quand même des guerres un peu partout. Et le sable et le Coupillon, excusez-moi, il y a des perturbations aujourd'hui. Alors, c'est une chanson qui comme on dit, c'est tiré d'ailleurs d'une ancienne chanson qui était une comptine enfantine, mais qui a bien été changée, puisque en 1965, avec le sabre et le coubillon, il fustige de manière magistrale la collusion armée-église dont on a besoin, le capitalisme, pour se maintenir. Alors, un petit extrait de cette. Alors, c'est une chanson de Jean Ferrat, un texte et musique de Jean Ferrat. Comme dans les paroles, vous verrez, il y a par exemple, on dit comme cul et chemise, comme larron en foire, j'ai vu se constituer tant d'associations, le sabre et le goupillon, l'un brandissant le glaive et l'autre le ciboire. Les peuples n'avaient plus à se poser de questions, et quand ils s'en posaient, c'était déjà trop tard. On s'en sert aussi bien pour tondre le mouton. Voilà la chanson.
Comme cul et chemise, comme larrons en foire, j'ai vu se constituer tant d'associations. Mais il n'en reste qu'une, au travers de l'histoire, qui a su nous donner toute satisfaction. Le sabre et le goupillon, l'un brandissant le glaive et l'autre le ciboire, les peuples n'avaient plus à se poser de questions. Et quand ils s'en posaient, c'était déjà trop tard, on se sert aussi bien pour tondre le mouton, du sabre que du goupillon. Quand un abbé de cour poussait une bergère vers des chemins tremblants d'ardentes déraisons, la belle ne savait pas, quand elle se laissait faire, qu'il condamnait l'usage de la contraception, le sabre et le goupillon. Et maintes éminences, et maint beau capitaine, reposait le guerrier de la même façon, dans le salon chinois, où Madame Germaine, grâce à ses pensionnaires, réalisait l'union du sabre et du goupillon. C'était le temps rêvé de tous les militaires, on leur offrait des guerres et des expéditions, que de manants joyeux sont partis chez Saint-Pierre, le cœur plein de mitraille et de bénédictions, du sabre et du goupillon. Quand ils s'en revenaient, et d'Asie et d'Afrique, ils faisaient régner l'ordre au sein de la nation. Les uns possédaient l'art d'utiliser la trique, les autres, sans le dire, pensaient qu'elle a du bon, le sabre et le goupillon. On ne sait plus aujourd'hui à qui faire la guerre, ça brise le moral de la génération. C'est pourquoi les crédits que la paix nous libère, il est juste qu'ils aillent comme consolation au sabre et au goupillon. L'un jouant du clairon, l'autre de l'harmonium, ils instruiront ainsi selon la tradition. Des craquants sans brimeuse, des forts en téléum, qui nous donneront encore bien des satisfactions, le sabre et le goupillon.
Bon, merci. Et donc, nous venons de le voir, la laïcité mérite d'être défendue et, comme on dit aujourd'hui, porté. Et donc, n'est-il pas temps que les laïcs se retrouvent pour la mise en œuvre d'une séparation effective? Henri, peux-tu nous en parler, s'il te plaît?
Je vais essayer, mon cher Michel. Alors donc, merci à tous ceux qui nous écoutent. Il faut constater que nous vivons aujourd'hui dans un pays où les attaques se font de plus en plus graves et de plus en plus nombreuses contre les libertés fondamentales, notamment la liberté d'association avec ce qu'on a appelé la loi séparatisme qui vise à mettre, Claudette l'a démontré tout à l'heure, l'ensemble des associations sous la tutelle de l'idéologie d'État, mais c'est aussi la liberté de manifestation. Je ne vais pas énumérer toutes les interdictions, toutes les dissolutions et toutes les arrestations, toutes parfaitement abusives, organisées par notre ministre de l'Intérieur, M. Darmanin. Et donc ça implique aussi la liberté de revendiquer, qui est mise ainsi sur la ligne de tir de la bien-pensance gouvernementale. Mais de plus en plus, c'est même la liberté de s'exprimer et la liberté de penser tout court qui sont remises en cause. Je voudrais prendre deux exemples dans l'actualité récente. Il s'agit de deux propositions de loi. Décidément, aujourd'hui, la libre pensée est faite dans la proposition de loi, en pour et en contre, évidemment. Il y a une première proposition de loi tout à fait hostile à la liberté, qui est déposée par un groupe transpartisan, il faut bien le dire, un certain nombre de députés socialistes, enfin du Parti socialiste en tout cas, qui vise à ceci. Il s'agit d'interdire aux médias de relayer ce qui serait considéré, alors par qui ? Par quelque part, dans les cieux, il y a un aréopage de sages tout puissants et tout savants qui pourront décider. Il sera donc interdit aux médias de relayer les opinions climato-sceptiques. C'est-à-dire les gens qui pensent ceci ou cela sur qui a la responsabilité du réchauffement climatique. Ou, enfin bon, climato-sceptique, c'est un mot un peu tiroir. Chacun met dedans ce qu'il veut. Ça serait une remise en cause de la liberté de la presse. Et je lis tout simplement un article, par exemple, qui a été publié le 29 septembre de cette année, 2023, publié par Libération. Qui sous-titrait son article « La liberté de la presse s'arrête là où commence la lutte contre le dérèglement climatique ». Alors, je vais prendre un exemple un peu absurde pour m'éloigner du sujet, mais pour bien me faire comprendre. On sait qu'aux États-Unis, il y aurait, d'après un sondage, 9 millions de personnes qui pensent que la Terre est plate. Personnellement, je considère que c'est une opinion absurde. Mais donc, en France, il y aurait, toujours selon le même type de sondage, entre 400 et 600 000 personnes en France qui pensent également que la Terre est plate. Alors là, il y a deux options. C'est où on dit « Oh là là, ces gens sont bien ignorants et il faudrait quand même qu'on fasse quelque chose au niveau de l'école pour améliorer les savoirs et la transmission des savoirs », là en l'occurrence la géographie. Ou alors on dit « Ceci est une opinion déviante, donc on va leur coller un PV de 135 euros ». Il y a quelque chose qui serait du domaine éducatif, à quoi je suis favorable, et il y a quelque chose qui est juste du domaine, on a un problème, mettons-leur un coup de matraque. Et ça, c'est une remise en cause fondamentale, parce qu'au-delà de l'aspect du climat et de la nécessaire lutte contre le réchauffement climatique, ça veut dire qu'on introduit le précédent, que même en temps de paix, ça va être un temps de guerre. C'est-à-dire que comme pendant la guerre, le gouvernement, l'état-major de l'armée, que sais-je, l'Académie des sciences, auront un pouvoir de censure. C'est-à-dire décidera de ce que les journaux ont le droit de dire et le droit de ne pas dire. Oui, mais justement, avoir le droit de dire quelque chose et qu'un autre journal ait le droit de dire le contraire, c'est très exactement la définition de la démocratie. Alors personne n'est assez bête parmi les censeurs, pour dire « j'aime pas la démocratie, je vais la supprimer ». Tout le monde trouve une bonne raison. Alors le réchauffement climatique, c'est une super raison. Donc avec ça, comme on a une super raison, c'est comme pendant la guerre. Il faut gagner la guerre, c'est une super raison. Donc il faut interdire, toute liberté d'expression. On vit dans un pays comme ça. Il y a un deuxième projet de loi, cette fois par des sénateurs de droite. Ça, c'est bien les libres penseurs, un coup à droite, un coup à gauche. Hein. Bien sûr. Qui prévoit de réprimer. Alors, ça paraît incroyable, il faut que je le lise, leur proposition. Exposer des motifs du proposé de loi, une proposition de loi déposée au Sénat. C'est la proposition de loi numéro 21 d'un groupe de sénateurs dits des Républicains. Il faut que je donne le nom. C'est un gars qui s'appelle, la figure de proue, s'appelle Stéphane le Rudilier. C'est un nom à se souvenir. Voici l'exposé des motifs de la loi. Les propos tenus par plusieurs personnalités et forces politiques s'agissant du conflit israélo-palestinien révèlent que l'existence et la légitimité d'un État d'Israël ne fait toujours pas l'unanimité et souffre d'infâmes contestations qu'il est à présent impératif de réprimer sur le plan pénal. Alors, c'est des rigolos parce que le truc qu'ils prennent est absolument absurde et imbécile, mais c'est des cons méchants parce qu'ils veulent réprimer une opinion sur le plan pénal. Ils poursuivent, ils disent non seulement d'un point de vue symbolique, mais surtout pour faire comprendre, c'est-à-dire mettez-vous bien ça dans la tête à coup de matraque, que contester l'existence d'Israël est tout aussi condamnable que l'antisémitisme. Et halte-là. L'antisémitisme, c'est un délit, c'est du racisme. Mais le fait de contester l'existence de l'État d'Israël, ce qu'on appelle se prononcer contre le sionisme, ça, c'est une opinion, hein. Alors il ne s'agit même pas de discuter de c'est l'opinion de l'un, c'est l'opinion de l'autre, c'est l'opinion de qui ? C'est l'interdiction d'avoir une opinion qui ne convient pas au groupe LR, c'est-à-dire par exemple à M. Ciotti. Si on a une opinion qui ne convient pas à M. Ciotti, on crée le précédent à partir de l'État d'Israël sous l'argument frelaté de l'antisémitisme, puis il ne s'agit pas de ça, il s'agit d'opposition au sionisme, de créer la possibilité qu'une opinion soit pénalement réprimée pour que les gens comprennent bien une fois pour toutes. C'est-à-dire le débat politique conçu comme une rouste à un chien pour qu'il ne fasse pas ses besoins dans la maison. Alors au-delà de l'aspect absolument ridicule, grotesque de ces gens, il y a une menace fondamentale pour les libertés démocratiques. Demain, il sera interdit de ne pas être réglementairement en extase devant les pitreries de Zelensky, par exemple. Il sera où, à l'inverse, selon s'il y a un changement de gouvernement demain, il sera interdit de ne pas être réglementairement en extase devant les discours de Poutine. Mais c'est le rêve du bon docteur Goebbels. C'est le rêve d'Adolf Hitler, ça. C'est l'interdiction d'avoir une opinion qui n'est pas celle qui convient au chef d'État, qui n'est pas celle qui convient à tel ou tel groupe politique. Mais où va-t-on ? Où va-t-on ? Donc voilà, je pense, je pourrais multiplier les exemples, mais je pense avec ces deux exemples-là avoir pris la démonstration du véritable danger dans lequel vit ce pays, danger de remise en cause des libertés fondamentales. Et donc on peut dire aujourd'hui qu'il existe un impératif absolu qui est défendre la liberté de conscience. Et aujourd'hui, on sait, c'est la vie qui est comme ça, les forces qui sont attachées à la défense de la liberté de conscience sont nombreuses mais dispersées. Et c'est pour cela que c'est devant ce constat-là que le dernier congrès national de la Fédération de la Libre Pensée a émis une proposition qui est il faut rechercher l'unité, il faut rechercher la possibilité de constituer un cadre commun. Mais un cadre commun qui ne soit pas contraignant. Il ne s'agit pas ni de chapeauter, ni de concurrencer, ni de faire disparaître les organisations, les associations que l'histoire de ce pays a forgées, que les gens dans ce pays ont constituées justement pour la défense des libertés démocratiques. Et donc la libre pensée qui propose que ce cadre commun ait un caractère confédéral, c'est-à-dire rassemblant des forces diverses et variées, des associations, personnalités, associations nationales, associations locales, mais en maintenant comme la prunelle de nos yeux l'existence et l'indépendance de chacune de ces organisations. C'est en quelque sorte non pas un collectif qui parlerait au nom de tout le monde, surtout pas, mais c'est donner un cadre permettant à tout un chacun de se rencontrer pour voir les possibilités d'action en commun. Et donc la libre pensée propose à tous ceux qui sont attachés à la liberté de conscience de se rassembler dans, alors c'est un titre provisoire, nous proposons ça, une confédération laïque de défense de la liberté de penser ou de la liberté de conscience. C'est un titre qui n'est pas déposé, qui n'est pas définitif. C'est une proposition que nous faisons. Et un premier, une conférence nationale pourrait se réunir dans le courant de 2025, de tous ceux qui seraient partisans de constituer cette forme de regroupement. Et il s'agirait donc d'un cadre large. Et donc, je l'ai dit, cette proposition s'adresse aux associations nationales ou locales, aux militants, aux individualités qui souhaitent agir efficacement, parce que l'unité, c'est souvent l'efficacité, pour la liberté. Et donc, bien sûr, il ne s'agit pas qu'il y ait de cotisation, mais l'objectif serait d'avoir un cadre de concertation et de publier régulièrement une newsletter, comme on dit maintenant, c'est-à-dire une lettre par Internet, et éventuellement une publication papier. Voilà un peu en quoi consiste cette proposition. Et la libre pensée avance un peu des piliers autour desquels se rassembler. Le premier, ça serait la défense des lois de 1901, c'est-à-dire la liberté d'association, et de 1905, c'est-à-dire la liberté de conscience, ce qu'on appelle la laïcité, même si aujourd'hui on nous présente la laïcité comme quelque chose qui serait contre la liberté de conscience, la liberté de religion. Ce n'est pas le cas. C'est le contraire. C'est que l'État enlève sa lourde patte sur les questions de religion et que les religions n'aillent pas s'occuper des affaires publiques. L'abrogation de la loi Debré qui finance à coups de milliards l'enseignement privé au détriment de l'école laïque et publique. L'abrogation de la loi séparatisme dont on a déjà parlé tout à l'heure, sur laquelle je ne reviens pas, et la défense de la liberté des choix, des funérailles civiles, et leur promotion et pour l'obtention de salles municipales pour les hommages laïcs aux défunts. Ça, ce serait une conquête, pas simplement pour les laïcs, pour les non-croyants, puisque très généralement, les mairies devraient mettre à la disposition des salles polyvalentes, qui fait qu'un jour, si une famille veut enterrer quelqu'un selon un rite A, elle puisse le faire, selon un rite d'une autre religion, elle puisse le faire, et que donc ceux qui n'ont pas de religion, qui sont maintenant la majorité en France, la très nette majorité, puissent le faire également. Voilà. Donc il y aurait toute une série d'autres choses à débattre, mais juste pour dire que ce débat, on ne peut pas l'avoir à la radio, évidemment, mais dans le courant de l'année qui vient, 2024, la Libre Pensée organisera dans les Bouches-du-Rhône des réunions, des rencontres, des débats autour de cette question.
Merci Henri. Donc je vais demander une fois de plus à Michel de nous mettre un petit intermède musical.
Et voilà. Alors, la chanson que je vais vous présenter, c'est la chanson Bella Ciao. Elle a été reprise en persan par une femme non voilée, cette chanson, et elle rend hommage à Nashra Amini. Mais c'est surtout, il faut le voir, une chanson pour la liberté. Et aujourd'hui, on sait qu'aujourd'hui, il y a des peuples opprimés. Et je pense que cette chanson sera vraiment la bienvenue.
از گلوی تو تا صدای ما بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 میپریم از خواب یه شب مهتاب یکی میگه آی آدم ها یا همه با هم یا همه تنها ما که بیداریم تا فردا خاک این خشم من و تو تشنه بارون حق ما کم نیست زانوی غم نیست قلب ما که دور از هم نیست دنیای تاره این یه آغازه پنجره تا رویا بازه از گلوی تو تا صدای ما بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 میپریم از خواب یه شب مهتاب یکی میگه آی آدم ها یا همه با هم یا همه تنها ما که بیداریم تا فردا موسیقی
Voilà, une très belle voix d'ailleurs. Oui, ce que vient de dire Henri me fait penser, à propos de bien-pensance, à quelque chose qui choquerait peut-être profondément les auteurs de propositions de loi. C'est ce que M. Poutine fait dans son pays pour ceux qui refusent, qui s'expriment à propos de ce qu'il appelle, lui, une opération spéciale. C'est à peu près le même esprit. Hein? Oui, donc je vais faire quelques annonces rapides. Hein? La première, c'est que samedi qui vient, le 9, à 14h30, ici à la friche de la Belle de Mai, aux grandes tables, à l'initiative de la Ligue de la laïcité, 13, de la Ligue de l'enseignement, 13, de la Ligue des droits de l'homme, 13, et de la Libre Pensée, 13, il va y avoir donc une conférence à laquelle nous vous invitons à participer, une conférence débat. Ensuite, il y a sur les sites de la Fédération nationale de la libre pensée et sur le site de la Fédération départementale divers communiqués que je n'ai pas le temps de vous détailler. Hein, qui serait, il y en a un pour la défense des droits du peuple palestinien. Hein, et n'oublions pas qu'en ce moment, il se passe quelque chose d'abominable. C'est pousser toute la population sur la plage, vers la mer en ce moment. C'est incroyable, c'est insupportable. Il y a un communiqué aussi contre le projet de loi Darmanin sur l'immigration. Voilà que je. Et puis nos publications habituelles. Donc vous avez le mensuel national qui est La Raison. Le bimestriel départemental qui s'appelle L'Impertinent. Et puis, je peux aussi vous citer deux livres d'actualité. Un qui s'appelle Judaïcité, laïcité et libre pensée, qui est tout à fait récent, au prix de 16 euros. Va apparaître aussi un livre qui s'appelle... que je me retrouve. La libre pensée dans le monde arabo-musulman, qui vaut 12 euros. Il existe aussi les actes du colloque qui a eu lieu en 2015, qui s'appelle Islam et laïcité. Voilà. Donc, chères auditrices et chers auditeurs, nous vous remercions d'avoir écouté cette émission mensuelle de la Libre Pensée. Merci Claudette, Henri et Michel. Merci à nouveau aux animateurs de Article 25. Vous pourrez retrouver cette émission sur le site de la Fédération des Bouches-du-Rhône de la Libre Pensée, www.lp-13.org. Au revoir. Et à bientôt.
Oui, avant de passer notre chanson, je tiens juste à nous excuser de la régie, puisque ce début d'émission, comme vous l'avez constaté, a été un peu dans le brouillard. Hein, c'est-à-dire que vous l'avez compris, notre ami Michel l'a dit, hein, il y avait, comme habituellement sur nos chaînes, Henri Huy, Claudette Coudeville, Michel Cadouche et moi-même, Michel Garin, sur l'antenne de radio. Alors je tiens juste à compléter un peu ce qu'a dit mon ami Michel là, sur l'invitation pour le débat sur le 9 décembre. C'est un débat autour de deux tables rondes. Alors le thème en définitive, c'est pourquoi la laïcité, l'histoire de la séparation de l'Église et de l'État, avant de poser la loi, la laïcité à l'école, au-delà des chiffres et de l'écume médiatique, quelle perspective pour ce principe de concorde ? Voilà, c'est une conférence qui se tiendra avec Nicolas Cadenne, hein, que beaucoup de laïcs connaissent bien, Françoise Lorsery, Julien Garic, Milice Tétu, Christian Bruchy, Nolan Diaz, Rodriguez Couty, chef d'établissement également, et un référent laïcité, qui lui-même est référent laïcité. Voilà ce qu'il en est. Au revoir et à la prochaine fois, en espérant dans de meilleures conditions.